Ici, grand reportage.
Il y a 10 ans, jour pour jour, les premières manifestations éclataient à Deraa, dans le sud de la Syrie. Le mouvement de révolte, inspiré par d'autres pays arabes, gagne rapidement tout le pays. Face à la violence de la répression, la révolution syrienne devient petit à petit un conflit armé et est étouffée par l'entrée en scène de l'organisation État islamique. Aujourd'hui, le pays semble être un champ de ruines. Pourtant, les révolutionnaires d'il y a 10 ans refusent d'abandonner. Révolution syrienne, l'espoir malgré tout. Un grand reportage d'Oriane Verdier.
J'avais 15 ans quand la révolution a commencé en Syrie. À ce moment-là, je n'ai pas eu de grandes choses dans ma tête. J'étais comme tout le monde dans la rue pour dire non.
J'avais l'espoir que cette révolution soit la source de mon bonheur. En même temps, j'avais peur de la réaction du régime envers les manifestants. Finalement, tout ce que j'avais envisagé s'est réalisé. Mes espoirs comme mes peurs.
Cet espoir de liberté, né il y a 10 ans dans les rues syriennes, certains le cultivent encore. Nous l'avons retrouvé dans une vieille usine de briques rouges de Berlin-Est. L'endroit a été transformé en espace de coworking et c'est là qu'Anwar Albouni a installé son bureau. Ici, l'espoir est même devenu une certitude. La Syrie se relèvera. Voilà 40 ans que l'avocat des droits de l'homme se bat pour son pays contre ceux qui le dirigent. Ses armes, la justice et l'éducation. Son équipe traque les criminels de guerre syriens pour les mener devant la justice de pays européens. En pleine conversation téléphonique, il nous lance un regard malicieux.
Inch'Allah,
c'est un nouveau témoignage et je l'ai. C'est une affaire qui pourra être acceptée dans une cour européenne car la victime a 2 nationalités, dont une occidentale. Elle a été arrêtée, kidnappée et torturée. Cela donne à la juridiction de son pays la possibilité d'enquêter. Bachar al-Assad lui-même est impliqué dans cette affaire.
Et comment est-ce que vous avez trouvé ce témoin ?
C'est lui qui m'a trouvé. Les Syriens étaient très déçus, ils avaient perdu tout espoir de justice. Personne ne se souciait de leur souffrance et de tous les crimes commis. Quand notre travail est devenu public, beaucoup de gens ont repris courage. Notre premier objectif est d'ouvrir une fenêtre d'espoir pour les Syriens.
En février dernier, la justice allemande a condamné un officier du régime de Bachar al-Assad pour complicité de crimes contre l'humanité. Une première victoire dans cette lutte pour la justice. Mais le travail d'Anwar Albouni et de toute son équipe ne s'arrête pas là. Le défenseur des droits de l'homme veut préparer la société syrienne à écrire une nouvelle page de son histoire.
Un jour, les Syriens seront appelés à voter pour une nouvelle constitution. Mais personne en Syrie n'a la moindre idée du type de constitution qu'il serait préférable d'adopter pour la Syrie. Notre travail est donc aujourd'hui d'expliquer aux Syriens quel type d'article peut préserver leurs droits. Nous allons commencer par des formations d'avocats, de journalistes et de représentants de la société civile.
Sur le bureau d'en face, un jeune homme est concentré sur son ordinateur. Amjad avait 21 ans au début de la révolution. Il a été emprisonné pour avoir manifesté. Puis quand le régime a bombardé son quartier de Damas, sa famille et lui sont partis.
Je travaille ici dans l'administration du centre. En même temps, je continue d'agir pour la révolution syrienne. Nous avons créé une organisation pour en mettre en place des activités culturelles et aider les militants sur place. Il y a des gens qui continuent à avoir confiance en l'avenir, mais d'autres se sont impliqués dans les conflits. Ils n'ont pas eu le choix. Certains de mes amis ont rejoint des groupes armés. Je n'excuse pas leurs actions, mais je comprends aussi leur réalité sur le terrain. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils sont sous les bombardements en permanence. Ils voient des morts tous les jours.
Un homme vient d'entrer dans le bureau. Il s'est assis discrètement au bout d'un canapé, un sourire timide sur le visage.
Je suis de Syrie, je suis de Damas.
Je suis syrien, de Deir ez-Zor. Je travaillais à Damas, la capitale, où j'étais employé par les autorités pour détruire les constructions illégales. Quand la révolution a commencé, on nous a obligés à travailler avec les forces de sécurité. On nous a demandé d'enterrer les morts. Le premier jour, on nous a donné l'ordre de creuser deux grandes fosses. J'étais surpris de voir arriver deux camions frigorifiques. Ils étaient pleins de cadavres. Le premier jour, j'ai enterré 300 personnes. Chaque jour, on nous envoyait de nouveaux corps. Moi, je les enterrais avec le tractopelle prévu pour les travaux de chantier, avec mon outil de travail de base. Ça a duré plusieurs mois. J'ai enterré des milliers de personnes. Impossible de vous dire combien exactement. Ensuite, on m'a arrêté, en septembre 2012. Ils disaient que je connaissais les chiffres exacts du nombre de corps enterrés. Ils m'ont accusé de tout et n'importe quoi sans fondement. Le dossier avait été préparé à l'avance.
Cet homme qui a choisi pour sa sécurité de se faire appeler Mohammad fait partie de ces personnes qui ont livré pour la première fois à Anwar al-Bouni l'horreur qu'ils ont gardée trop longtemps en eux.
Avant qu'on m'arrête, j'avais vu que les corps qu'on me demandait d'enterrer n'avaient que la peau sur les os. À ce moment-là, je me demandais d'où ils venaient. Quand je suis arrivé en prison, j'ai compris. Ces cadavres, c'était mes camarades de prison. On m'a torturé pendant 4 mois. Nous étions 3500 personnes réunies dans une dizaine de pièces de 8 mètres carrés chacune. Chaque jour, une trentaine de personnes mouraient. Tous les matins à 10 heures, on sortait les morts pour les entasser devant les toilettes. Certaines personnes n'étaient pas encore mortes, mais elles n'avaient plus que quelques heures à vivre. Ils nous obligeaient à les mettre avec les morts.
Au bout d'un an, Mohammad a finalement été libéré contre une importante somme d'argent. Il est rentré chez lui à Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie, près de la frontière irakienne. Cette ville pétrolière, parmi les premières à se soulever contre le régime, était devenue le théâtre d'affrontements entre les forces de Damas et les forces rebelles rassemblées en majorité sous le nom d'Armée syrienne libre. L'organisation État islamique est rapidement venue s'ajouter à l'échiquier.
Quand le régime est arrivé près de l'aéroport de Deir ez-Zor, nous savions qu'ils allaient entrer dans la ville. Donc tout le monde est parti. Il y avait une importante collaboration entre Daesh et le régime. Leur objectif commun était d'éliminer les responsables de l'armée libre, les vrais meneurs de la révolution. Par exemple, les hommes de l'organisation État islamique sortaient le pétrole de Deir ez-Zor avec des camions, puis ils en donnaient une partie au régime. Personne ne devait poser de questions. Nous nous tenions loin de tout ça. On n'était que des citoyens. On travaillait nos terres sans poser de problème. À cette époque-là, Daesh était terroriste à 20% et le régime à 80%. C'est pour ça que le peuple n'avait pas trop peur de Daesh. Ils avaient surtout peur du régime. Le régime ne faisait pas que vous arrêter. Il détruisait toute votre famille. Il détruisait tout.
Après des années d'offensives successives, les forces de Bachar al-Assad contrôlent aujourd'hui la zone ouest de la province. La zone est, elle, est sous l'autorité des FDS, les forces démocratiques syriennes à majorité kurde. Mais Mohammad et sa famille n'osent toujours pas retourner dans leur ville natale.
Les Kurdes collaborent avec le régime. S'ils vous arrêtent, ils peuvent vous livrer au régime. Tant qu'il n'y aura pas d'observation internationale pour le respect de nos droits, on peut rester dans cette situation encore 25 ou 30 ans. Personne n'intervient et avant tout, nous, les sunnites, nous ne sommes pas considérés comme des opprimés. Pourtant, l'État islamique était une excuse pour détruire les villes sunnites. Donnez-moi le nom d'une ville non sunnite qui a été détruite. La question centrale, ce n'est pas Daesh. Daesh fait partie d'un cercle de criminalité du régime. On parle des égorgements commis par Daesh. Mais le régime égorgeait bien avant que Daesh n'apparaisse. Ils ont égorgé des quartiers entiers de Hama, des villages entiers.
Les milices du régime ont égorgé des femmes et des enfants avant l'État islamique, avant al-Nusra, avant tout le monde. Ils ont jeté les corps dans les rues. Personne ne veut voir ça. Pourtant, il y a des photos, des vidéos. Mais quand Daesh égorge une personne, tout le monde fait « Oh !» C'est vous qui avez créé ça.
Face à l'hypocrisie des pays occidentaux, Anwar peine à garder son calme.
I am from Hama. In the knowledge, Hama, it's
Je viens de Hama. Cette ville est connue comme le fief des frères musulmans en Syrie. Je suis chrétien et je ne me suis jamais senti rejeté à cause de ma religion. Les frères musulmans ont mené un soulèvement dans les années 80. Il y a eu un grand massacre. Le régime a tué plus de 40 000 Syriens à ce moment-là. Le régime a créé la situation actuelle, tout comme l'État islamique et Al-Nusra. En 6 mois, ils ne sont pas arrivés à arrêter la révolution pacifique, donc ils se sont infiltrés en soutenant les armes et les idées radicales. La Turquie a laissé beaucoup de radicaux entrer en Syrie. Les pays du Golfe ont financé des mouvements radicaux pour qu'ils viennent en Syrie et ils les ont armés. Pendant ce temps, tout le monde attaquait l'armée libre. Personne ne voulait d'une renaissance démocratique syrienne. L'Europe pourrait jouer un rôle important si elle le voulait, mais elle ne fait rien. Elle regarde ses intérêts à court terme et reste silencieuse.
Rendez-vous à Lille cette fois. Nous retrouvons Rateb Chabot, ancien prisonnier politique à l'époque de Hafez al-Assad. Ce père de famille a vécu la révolution dans la ville côtière de Latakia avec une double casquette, chirurgien de formation et journaliste par passion.
Ma ville, Latakia, a une certaine particularité. La plupart des gens soutiennent le régime car la majorité des habitants sont de la communauté alaouite, tout comme Bachar el-Assad. C'était donc quelque chose de très spécial pour moi de voir des gens de ma communauté alaouite participer à la révolution. Moi, je n'ai participé à aucune manifestation, mais j'ai participé à la révolution en écrivant pour un journal libanais. En même temps, je soignais les manifestants blessés le plus discrètement possible. Même ma famille n'était pas au courant. Ça a duré 6 mois à peu près. Après, les armes ont changé la scène. Moi, comme beaucoup d'intellectuels syriens, j'étais contre la militarisation. Nous étions pour une révolution pacifique, mais cette militarisation nous semblait en même temps nécessaire face au comportement sauvage du régime contre les manifestants. D'autre part, la sédition n'était pas envisageable, parce que la sédition aurait représenté la mise sous silence de la révolution. Donc il était très difficile d'arrêter ce mouvement. Et puis il y avait un espoir du genre « frère, laisse les choses se passer ». Il y avait un espoir flou. On pensait « laissons ce régime tomber, peu importe par quels moyens, ensuite on organisera les choses ». Mais à mon avis, la révolution ne reviendra plus en Syrie. Surtout à cause du fait que le pays est divisé en zones d'influence de différentes forces étrangères. Tous ces gens-là ne parlent plus de démocratie. Au contraire, ils sont antidémocratiques et ce sont elles les vraies forces sur le terrain. Le peuple a fini par se diviser.
Pour tenter d'éviter l'éclatement de la révolution en conflit armé, les partis politiques d'opposition ont rapidement essayé de se réunir au sein du Conseil national syrien. Burhan Ghalioun a été le premier président de cette entité de transition et le premier témoin des divisions internes de la scène politique syrienne.
Il y a eu dès le début des défaillances. Les courants de gauche laïque, ils ne pouvaient pas s'asseoir avec des islamistes, des frères musulmans, etc. Ça, c'est la première défection. C'est pourquoi on a été accusé après d'être un conseil islamiste, ce qui n'était pas vrai du tout. Mais après, lorsqu'il y a eu cette défection, leur place était beaucoup plus importante. Parce que plus que la moitié de l'élite intellectuelle de gauche et laïque s'est éliminée elle-même de la scène. Et après, c'est vrai que les islamistes, ils se sont rendus compte qu'ils étaient la composante la plus importante. Et ils ont essayé d'agir comme s'ils étaient la véritable force du Conseil. Après, moi, je suis resté 6 mois et puis j'ai présenté ma démission et c'était le maximum que je pouvais supporter en réalité puisque c'était à un certain moment c'était très dur.
Autre gros point de division, appelé ou non à une intervention militaire de la communauté internationale. Un débat qu'il était inutile d'avoir selon Burhan Khalioun puisque les différentes diplomaties occidentales avaient déjà décidé de ne pas intervenir.
Moi je misais sur l'unification de l'ensemble des forces de l'opposition. Oh, ils ont misé sur une intervention éventuelle. Alors qu'on avait la certitude, directement avec les Allemands, les Français, etc., qu'il n'y avait pas d'intervention. La plus grande preuve a été lorsque Obama a effacé sa ligne rouge et même après l'utilisation des armes chimiques par Assad, il n'a rien fait.
Malgré ces divisions toujours présentes, Burhan Khalioun garde confiance en la capacité de la société syrienne à aller de l'avant.
Cette division est le fruit aussi du système paranoïaque d'Assad. Les frères musulmans d'aujourd'hui ne ressemble pas du tout aux frères musulmans des années 50. Des années 50, il y avait des frères musulmans au Parlement qui défendaient des idées de gauche. Le chef des frères musulmans en Syrie dans les années 50 faisait alliance avec le Parti communiste. Je pense que l'ouverture de l'esprit est aujourd'hui en règle. Et cette ouverture va aider et les anciens islamistes à sortir de leur aveuglement idéologique. Et évidemment aussi, ça va aider les laïcs radicaux, c'est-à-dire qui ne voient la laïcité qu'à travers le rejet de la religion, ce qui n'est pas viable.
Garder espoir n'est pourtant pas chose facile, encore moins pour ceux qui ont vu l'horreur de trop près et pendant trop longtemps. Amir al-Halbi et son ami Saif Azam se sont rencontrés pendant le siège d'Alep. L'un est devenu photographe, l'autre caméraman pour porter la vérité aux yeux du monde entier. Ils sont restés dans leur ville jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que le régime ne reprenne définitivement la ville. 5 ans plus tard, Amir peine encore à se reconstruire.
Il y a 2 ou 3 points qui m'ont marqué dans la vie. C'était pas vraiment la révolution elle-même, mais c'était le moment où j'étais dans le présent, parce que j'étais dans la manif. Je n'ai pas compris pourquoi, à 15 ans que j'ai rien fait, et je me trouve ici. La deuxième chose, c'était la mort de mon père pendant la guerre. Il a travaillé avec le casque blanc. C'est une équipe qui sauve les gens à chaque fois qu'il y a le bombardement. Une fois, on était dans le même endroit où il y avait des bombardements. Moi, je suis venu pour faire des photos et lui, il est venu pour faire son travail. Il y avait un autre bombardement qui est arrivé au même endroit. Je lui ai perdu. Voilà. Moi, généralement, j'ai plus l'espoir dans la vie, pas seulement la révolution. Je pense que la guerre a trouvé beaucoup de choses de moi, beaucoup de sentiments. Je ne peux pas dire que j'ai l'espoir ou... Du coup, je me pose la question de fois si la Syrie me manque ou si je suis avec quelqu'un, est-ce que je l'aime ou... Beaucoup de questions, je ne trouve pas la réponse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est perdu. Je ne sais pas comment expliquer ça.
Saïf, lui aussi, était militant avant de devenir journaliste et il refuse de renoncer.
Quand la révolution devient une guerre, nous, comme des activistes, des journalistes, on ne peut rien faire. Maintenant, c'est le pouvoir international qui décide. Mais pour moi, la révolution, c'est jamais terminé. C'est une idée qui circule dans la population. La révolution dans l'histoire, ce n'est pas une chose très facile. Il faut payer le prix pour avoir le résultat. Et donc, malheureusement, les Syriens ont beaucoup payé. Ils ne sont pas encore le résultat. Mais ça va venir.
Saïf regarde son ami avec un sourire doux. En attendant qu'Amir se reconstruise, il aura de l'espoir pour deux. لو تسمع ربعك بوزاعة لما يرسم لك ممنونة بعيونك عاش أوزاعة تستاهل سوري عيونك لو ترجع
Révolution syrienne, l'espoir malgré tout d'Oriane Verdier. Réalisation Nicolas Benita. Yeah.